RMC Running.
Mathéo Rollet.
Salut à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Chamonix en ébullition pour l'arrivée de la course phare, l'UTMB, avec la victoire du Britannique Tom Evans il y a quelques instants. Les arrivées d'ailleurs s'enchaînent toujours en ce moment dans Chamonix. On a entendu les supporters il y a quelques instants célébrer leur champion. On attend d'ailleurs les premières féminines. Et en parlant de féminines, on va recevoir les féminines de la CCC hier qui nous ont offert une course de folie. Justement, RMC Running a le plaisir d'accueillir Blandine Lérondel, quatrième de cette CCC 2025 et première française. Blandine, arrivée ce vendredi soir à Chamonix sous une pluie battante, il faut le dire, elle nous détaillera sa course dans un instant. Et en parlant de battante, nous recevons Sylvaine Cusseau. Elle a parcouru les sentiers du monde entier pendant toute sa carrière et continue de le faire. Et a décidé de repasser par Chamonix cette année. Sylvaine a aussi bouclé sa CCC cette nuit en 15h45. On va débriefer tout ça. Et puis elle est allée chercher son top 15 sur cette CCC de haute volée. Léa Dué, 3ème française hier sur la ligne, est avec nous dans RMC Running. Et enfin, comment ne pas saluer le maître, le futur trailer fou, le maître Yodu qui est avec nous. Salut Yodu.
Salut à tous.
Johan Durand avec nous. Allez, en direct de Chamonix, c'est parti pour débriefer cette CCC.
RMC Running.
On commence directement avec Blandine. Tu es arrivé quatrième, tu visais un podium, mais... ce plateau, il faut le dire, c'est peut-être la CCC la plus relevée de l'histoire du côté des féminines. Hein.
Bah effectivement, j'en ai parlé, on a parlé il n'y a pas plus tard que quelques heures avec Julien Chaurier, qui est responsable maintenant de toute la team élite sur l'UTMB. Et il nous a quand même avoué que c'était probablement l'une des courses de la CCC au niveau féminin les plus relevées de toute l'histoire de l'UTMB. Et effectivement, il y avait une très très grosse densité cette année. Alors je ne visais pas forcément de podium, j'avoue que je voulais faire une course pleine et remplie. Et mon objectif, c'était d'arriver sur la ligne d'arrivée en me disant que j'avais tout donné et que, enfin, pour ne rien regretter. Et ça a été chose faite. Avec cette densité, j'ai voulu jouer. Voilà, prendre des risques dès le début et jusqu'à la, en bas de la Flégère. Donc en fait, on est jusqu'au 90e kilomètre. J'étais deuxième féminine et pas si loin de la première place. Et en fait, finalement, en 10 kilomètres, il y a une fin assez palpitante chez les féminines pour le podium. Peut-être qu'on en reparlera plus tard. Ouais. Mais finalement, bah, je finis avec une quatrième place. Mais de façon sportive et au niveau de la compétition, c'était génial.
Bah justement, tu en parlais pendant longtemps. À la fin de cette CCC, les 3 voire 4 premières se tenaient en moins d'une minute, ou en moins de 2 minutes en tout cas. C'était très très serré pour un 100 km. Même à un moment, les 3 premières s'apercevaient dans la dernière bosse de la course. Comment est-ce que tu as vécu ce final, notamment avec cette arrivée où on t'a senti très très ému et très marqué par l'effort quand même?
Oui, alors moi, mon entourage et les personnes qui me ravitaillent aiment bien toujours me donner les écarts des femmes qui sont devant. Sauf que genre, vous me direz, les filles, vous, si vous ressentez la même chose, mais j'ai toujours envie de leur dire, et derrière, commencez. Et on me dit toujours, t'occupe pas de derrière, faut regarder devant. Sauf qu'en fait, quand on est déjà dans la difficulté, on aimerait bien savoir si on va pas se faire rattraper. Mais bon, j'avais que notion de l'écart avec la première féminine. Et en fait, à Valorcine, j'étais que à 2 minutes. Et vraiment, tout le monde me criait dessus pour me motiver, pour essayer d'aller chercher cette première place depuis Valorcine. Et vraiment, dans la montée du col des montées, donc pour voir. La faire un peu bref, c'est quand même un faux plat montant. Alors nous, on dit faux plat montant, mais pour Yodu, il va rigoler parce que je pense que c'est quoi,
c'est 10, la côte 15, de l'année pour 10, les marathoniens.
15% de pente sur 4 km,
mais
pour nous, c'est du faux plat montant. Ça change de vos
pour les auditeurs, de pente, lambda de parisien,
c'est 6% et 30 secondes, ouais. C'est ça,
ouais. Déjà à Paris, on n'a pas de côte comme ça.
Ouais. Bon, pour nous, c'était un faux plat montant. Et pendant tout ce faux plat montant, j'ai essayé de visser pour essayer de rattraper la première. Et ensuite, on est monté dans la côte de la Flégère, qui est un peu plus, avec un peu plus pentu, donc plutôt du 30%.
un peu.
Et finalement, je suis passé en quelques minutes de l'espoir de pouvoir accrocher une victoire à finalement deux fusées qui sont arrivées un peu de nulle part, parce que je ne m'y attendais pas du tout, comme je savais, j'avais aucune idée de ce qui se passait derrière moi. Mais en fait, deux fusées, donc Sylvia et Anna, qui m'ont doublé en courant. Là, je revois les images. Là, à l'heure actuelle, on voit Ruth et Camille Bruyat qui sont en train de monter cette flégère en marchant tout naturellement, parce qu'en plus, elles font un UTMB. Mais à ces endroits-là, je revois les deux... Anna et Sylvia qui sont passées à une allure dingue en courant, et moi c'était impossible de les suivre, donc effectivement ouais. Ça a été un gros ascenseur émotionnel où je pensais je cherchais la victoire, et en fait finalement je vois que même le podium me file entre les doigts.
C'est ici que ça s'est joué, ouais.
C'est ici que ça s'est joué. Et oui, effectivement, je pensais qu'elle jouait le bluff, mais non, quand j'ai commencé à arriver en bas de la flégère, donc en fait il y a une grande remontée de piste, et je pense qu'il reste encore 100 ou 200 mètres, et moi je suis arrivée en bas de cette piste de ski, et en fait les filles étaient déjà tout en haut, donc en fait elles ont vraiment maintenu leur rythme, c'était assez impressionnant. Et pourquoi je suis arrivée en pleurs à la ligne d'arrivée, c'est pas du tout de la déception, c'est que je pense que je suis allée vraiment puiser très loin dans mes réserves, et c'était des pleurs, des larmes de soulagement, je sais pas si ça vous fait ça aussi. Et puis et tout est décuplé ici à Chamonix, il y a une ambiance de dingue, il y a l'émulation du public, des gens qui nous entourent, il y a la musique, il y a les voix, il y a vraiment une atmosphère, énormément d'émotions, ouais. Une atmosphère très particulière qui fait que il suffit juste qu'on soit à fleur de peau, et alors on arrive dans Chamonix, c'est foutu. Si...
C'est un lieu spécial pour toi en plus, toi qui as fait podium de l'UTMB ici.
J'avais déjà, première fois que je suis venue ici, j'ai gagné la OCC, l'année d'après j'ai gagné la CCC, et ensuite j'ai fait deux belles places d'honneur à l'UTMB. Il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois et demi, j'ai gagné le 90 km du Mont Blanc, et on arrive pareil sur le triangle de la place de l'Amitié, aussi avec Ludo Collet. Donc,
c'est une ville qui te réussit bien. Ouais. Ça va, t'aimes bien revenir à Chamonix.
Exactement.
Bon, on a vu, tu parlais tout à l'heure de fusées. Pendant que les fusées de l'UTMB arrivent, il y a aussi ceux qui font la PTL qui arrivent en même temps.
Il faut une pensée pour eux. Ils sont partis lundi matin.
On en a croisé quelques-uns sur la CCC. Ils me félicitaient, mais moi j'étais obligée de leur retourner le compliment. Parce que je dis non, mais les gars, là c'est vous êtes partis il y a peut-être 2 ou 3 jours, enfin j'arrive même plus à compter, 4, sous des conditions météorologiques dantesques. Nous on a vraiment eu la chance, on est quand même passé un peu entre les gouttes. Oui, on arrivait sous la pluie, mais finalement c'est pas grave d'avoir 2 heures de pluie versus une nuit complète quand on part sur 48, ouais. 72, je sais pas combien ils font, ça paraît tellement lunaire que j'ose même pas y penser.
La PTL, c'est, pour rappel, c'est 300 km et 25 000 mètres de dénivelé, donc
ils sont partis par équipe, simplement.
En autosuffisance. En semi-autonomie, quoi.
Comme quoi, il y a des sorties...
Sans balisage, ouais. C'est...
Comme quoi, il y a des sorties toujours plus longues, en fait. Même l'UTMB, ça paraît court à côté. Non, Yodu, je voulais te poser la question aussi. Comment est-ce qu'en tant qu'athlète élite, on se met en condition pour terminer presque à l'échelle d'un 100 km au sprint pour avoir un résultat qui peut changer une vie? Un podium sur une CCC, c'est pas rien.
Alors c'est pas rien, mais c'est ultra compliqué, parce que c'est vrai que moi, pour le connaître sur marathon, c'est 2 heures de fluctuation avec des moments up qu'il faut savoir gérer, et des moments down où t'es un peu dans la tempête et qu'il faut savoir gérer aussi. Mais c'est sur une échelle relativement courte de 2 heures, et effectivement nous sur marathon on a toujours le gars devant toi, tu vois, t'as pas des gros écarts comme il peut y avoir sur l'ultra. Et effectivement, c'est encore plus décuplé sur des efforts de 100 km, de 60, de 100, de 170. Et puis des fois, t'es 10 minutes derrière, et puis ça s'écroule devant, tu reviens et tout. Et effectivement, même la difficulté, c'est, on le voit même dans la dernière descente, t'as pas course gagnée. Hein. Même si t'as 2 minutes d'avance... faut faire attention, la chute est très vite arrivée, le moindre erreur d'inattention, faut garder de la lucidité alors que c'est très compliqué. Donc ça, je pense qu'il n'y a que l'expérience, et il n'y a que le fait de faire des courses comme ça, de faire des longues distances, qui peut t'aider à justement être prêt à, dans les moments de down, à peut-être serrer les dents et à savoir quand, tu vois, par exemple, je pense que on aura Ludo Pommeret dans un podcast à venir. Lui, typiquement, ça sera très intéressant de savoir comment, avec l'expérience, il gère ses moments de down et ses moments d'euphorie, et comment il arrive à lisser, justement, de se dire, je sais que je vais revenir, tu vois, de jamais paniquer.
effectivement, le roi des remontadas.
C'est, ouais, c'est ça, c'est sa façon de courir, mais c'est quelque chose qui se travaille. Ouais.
Léa, toi, c'est assez simple niveau chrono, finalement, t'as mis une heure et une minute de plus que Blandine. Donc 12h54, t'as fini aussi un petit peu sous la pluie, avec une très très belle 14e place pour toi, 3e française. C'est un petit peu un rêve éveillé pour toi aujourd'hui, ce résultat.
C'est vrai que je ne m'attendais pas aussi bien. Du coup, je l'ai faite l'année dernière, une première fois sur un 100 km. Et du coup, pas mal de choses qui étaient compliquées niveau digestif, etc. Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment lisser l'effort. J'ai toujours tendance à partir en gestion, mais je sentais que j'avais vraiment un gap à passer mentalement, d'endurer un effort un petit peu... être dans une zone en fait où ça, tu sens que tu peux tenir l'effort tout en n'étant pas non plus trop inconfortable sur ce genre de longue distance. Et du coup cette année je suis vraiment contente parce que j'ai essayé d'être, mais comme vous dites, voilà, de lisser au maximum l'effort et les émotions aussi, quoi. Pas s'emballer à des moments où tu vois que tu rattrapes pas mal de monde, te dire bon bah ok, enfin t'enflammes pas
aussi
non plus pour pas le repayer après, quoi. Et les moments de moins bien, je sais que moi au début je suis un peu je mets un petit temps à rentrer vraiment dans l'effort, mais en même temps je me rends compte qu'après je rattrape quand même du monde parce que je suis pas une tête brûlée non plus. Et du coup, ça a vraiment payé. Niveau nutrition, ça s'est vraiment très bien passé. Et je réalise pas trop encore. Je mesure pas vraiment à quel point c'est incroyable. Il faudra peut-être quelques jours, voilà. Mais en tout cas, satisfaite et le travail paye. C'est toujours c'est indéniable avec un peu d'envie et de persévérance.
Bon, incroyable, comme l'ambiance de Chamonix, ah ouais, hein, finalement, ça... c'est la ferveur, c'est pour
on
ça
a du mal à s'entendre.
C'est pour ça qu'on est ici aussi avec RMC Running. Aussi, toi, ton parcours est assez particulier, entre guillemets, parce que cette 14e place, cette 3e place française, elle veut dire beaucoup de choses en étant passé, en ayant eu le statut élite finalement ou professionnel, que, entre guillemets, en janvier dernier ou en décembre, quoi.
C'est
donc
ça.
Le delta est assez court finalement pour toi.
Oui, assez. C'est vrai que j'ai pas un profil de sportif d'endurance depuis des années. J'ai fait plusieurs sports différents. Je suis passée de la boxe anglaise au volley à la danse. En fait, je me suis mis à la course à pied au début sur route. Et en fait, j'ai grandi dans le Mercantour, donc j'ai toujours beaucoup aimé la montagne. De là, j'ai eu envie de me mettre au trail en voyant un petit peu les courses locales qui me donnaient envie. Donc on va dire concrètement, ça fait 4 ans que je fais de la compétition en trail. Donc c'est vrai que je suis assez contente de l'évolution et j'ai le sentiment de pouvoir encore travailler sur pas mal de choses et que j'ai un petit gap encore. Donc c'est chouette et j'aime le process. Je finis par vraiment aimer comment les moyens sur lesquels, les curseurs sur lesquels on peut jouer. Voilà.
Je vais venir voir Sylvaine aussi qui, elle, pendant la présentation, je disais que Sylvaine, t'étais une battante finalement. Bah, j'ai l'impression que ça résume bien ta course parce que elle n'était pas facile cette CCC, honnêtement. Les conditions climatiques à la fin, surtout pour toi qui arrivais dans la nuit. Je répète, t'as terminé cette CCC en 15h45, je crois, si je dis pas de bêtises. On t'a vu beaucoup sourire et en jouer au départ de cette météo. Finalement, il caillait un peu à la fin quand même, il fallait en venir à bout, elle n'était pas facile cette CCC. Hein.
On a quand même eu de la chance parce qu'on a eu toute la journée grand soleil.
Et alors qu'il était prévu grand froid.
C'était prévu grand froid, on s'était préparé à vivre une journée un peu compliquée. Au final, on s'en est plutôt bien sorti, quoi. Jusqu'à 17h, il a fait grand beau et il fallait bien s'équiper et ça passait. Comme disait Blandine tout à l'heure, 2, 3 ou 4 heures sous la pluie, c'est pas toute une nuit et c'est pas toute une journée. Mais c'est vrai que moi je déteste le froid et ce genre de conditions, donc c'était pas une partie de plaisir, on va dire, mais c'était la fin, donc ça passait.
Et comment tu analyses cette course finalement? Est-ce que c'est plutôt une réussite pour toi quand même? C'est un beau résultat que tu allais chercher.
Ouais, tu sais, moi je suis à un âge où tu te dis j'ai envie de pas régresser, et quand je fais la même chose qu'il y a 10 ans, c'est bien. Et mon objectif, il était de... J'ai fait 3 fois cette course et j'ai fait 3 fois le même chrono. Une fois en 2014, 2021 et cette année. Et moi, je me fixe rarement des objectifs de place et plutôt des objectifs de chrono. Je savais que de toute façon la densité était importante et j'étais incapable de même rentrer dans un top 20, c'était compliqué. Donc je me suis mis mon objectif à moi, c'était de faire aussi bien que les années d'avant et j'ai réussi, donc contente, c'est mon objectif à moi et je suis contente. Après j'étais vraiment bluffée du niveau chez les nanas. Dans le SAS Elite, on était peut-être 50 filles. C'est parti à fond et j'ai pris vraiment la première montée très tranquille et je crois que j'ai dû pointer 80e fille. Je me suis pas non plus endormie quoi. Enfin, après j'ai remonté tranquillement, mais ouais, le niveau cette année était très 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 impressionnant et je crois que d'année en année c'est encore plus élevé.
Ouais, Yodu disait de l'objectif c'était aussi de pas trop tomber parce que c'est vrai que Sylvain parfois tu nous fais des belles chutes. Bon là on a une entre guillemets. Elle était belle mais.
Ouais et puis après tu sais tu t'amènes même si tu connais, ça fait des années que tu cours et t'apprends toujours des trucs, tu vois. C'est l'objectif aussi c'est bah, le chrono et puis avoir le moins mal aux pieds possible parce que souvent tu fais des ajustements, là il y a la Diag qui va arriver, la Diag. C'est encore autre chose.
Non,
et moi, je suis assez sujette aux ampoules, tous les problèmes de pied. Et là, je suis arrivée, j'avais rien au pied. C'est ma petite victoire aussi, me dire ouais, j'ai pas été gênée par les ampoules. Et voilà, faire une course sans maux de ventre, où tu sais, tout va bien. Ouais. Tout va bien. Et tu dis ok, bah ça s'est bien passé. Quoi. J'ai pas eu de blessure, pas eu de douleur anormale. Bon, il y a eu des chutes, mais ça, c'est pas grave. Ça pimente un peu. Et je suis rentrée dans mon objectif. Et voilà, moi, la place, elle était vraiment anecdotique et à mon niveau, je savais que j'avais rien à jouer, quoi. Donc, ouais, très contente et Chamonix, quoi. Pareil, l'événement, il est à vivre. On entend, il y a une effervescence autour de tout ça. Vivre l'arrivée des courses, c'est génial. Puis nous, avec Azix, on a eu deux belles places avec les gars et il y a Anna qui est en train de remonter un peu le classement aussi chez les filles. Donc, c'est aussi... Le collectif, il est important aussi dans ces moments-là, quoi.
Ouais, peut-être qu'on aura la chance de vivre l'arrivée des féminines pendant le podcast, on verra.
C'est sûr.
Comment elles avancent, à voir. On aura peut-être ça en direct. Mais j'ai juste une question au niveau de la météo. Bah, on parlait de l'UTMB, eux, ils ont pris tarif aussi au niveau de la météo. Ils ont même eu de la neige. Comment est-ce qu'on s'adapte? J'ai envie de venir vers toi d'abord, Sylvaine, parce que toi, tu fais la Diag des Fous, la Saint-Élion, l'UTMB, enfin bref, toutes les courses possibles inimaginables avec des climats différents. Là, quand on annonce grand froid, finalement qu'il fait beau, qu'ensuite on arrive sur le soir, qu'il commence à pleuvoir et à cailler un petit peu, comment est-ce qu'on s'adapte à tout ça avant le départ, même essayer de pas trop se prendre la tête avec ça, non?
Bah, en fait, simplement, tu imagines tous les scénarios possibles. Parce qu'en fait, moi, pour avoir fait beaucoup de courses, j'ai vécu tout type de scénario et ça peut switcher en un rien de temps alors que ce n'était pas prévu. Donc, quand tu sais que c'est incertain, moi, j'avais pris les trois couches, deux vestes en plus, une veste pour me changer sèche. C'est léger, une veste, donc tu vois, ça rentre. Après, j'avais pris beaucoup trop de choses. Mais voilà, moi, j'ai plus envie de vivre ces moments où tu... T'as pas de solution. Moi, j'ai vu des gars s'arrêter en hypothermie. Et là, t'as pas le choix, quoi. Une fois que t'es pris par le froid, t'es tétanisé. Et moi, j'ai plus envie de vivre ça. Donc, j'anticipe vraiment et je me dis, bah, c'est pas grave. En fait, je préfère porter un peu plus et ne pas me mettre dans des conditions difficiles. Donc, en fait, juste tu te prépares au pire. Et tu vois, j'étais partie avec un manche longue. Et bah, du coup, j'ai eu chaud parce que c'était prévu froid. Il a fait super chaud. Donc,
T'as transpiré beaucoup.
Je me suis changée, j'ai enlevé mon manche longue. Après, j'ai pris le temps, mais je prends les premières féminines qui sont,
ils ont moins
qui sont au coude à coude. Elles ne peuvent pas prendre le temps. Moi, j'ai cette chance de me dire, bah, je ne suis pas à 30 secondes près et j'ai pris le temps de me changer. Comme à la Flégère, j'étais trempée, j'ai enlevé le trempé, j'ai mis mon sec qui était dans mon sac. Tu vois, à un certain niveau, tu peux quand même prendre le temps de t'adapter et je crois qu'il faut vraiment prévoir tous les scénarios possibles.
Justement,
surtout quand c'est incertain.
Toi Blandine, est-ce que on en parlait hier avec Arthur Joyeux Bouillon, est-ce que tu es plutôt de la team je pèse les grammes et je prends même presque des gants en latex pour jouer avec
le règlement
et les choses obligatoires dans le sac, ou est-ce que là on prend pas de risque, on prend des gants bien chauds et un collant bien chaud?
Alors j'allais en parler, effectivement on sera plutôt tendance à essayer de limiter le poids, hein, parce que on sait que le poids à transporter, c'est quand même de l'énergie qui coûte en plus. Par contre, je vais pas jouer sur n'importe quoi. Tu vois, là, par exemple, le kit grand froid est activé. On devait avoir une doudoune ou soft shell ou polaire. Moi, je savais j'avais regardé la météo vraiment au dernier moment. J'avais quand même vu qu'il faisait soleil toute la journée et que normalement, si tout se passait bien, j'arrivais à 22h et je me doutais que j'allais pas utiliser, probablement pas utiliser ça. Donc, j'avoue avoir pris une doudoune assez légère. Alors, par contre, alors il y en a qui disent oui, on pourrait prendre une douche sans manche, machin. Non, j'ai pris une vraie doudoune, mais j'ai quand même choisi la plus light que j'ai bien comprimée dans un sac compressible. Par contre, les gants, moi je trouve que c'est important. Alors, pareil, les gants, je les ai pas sortis. Je savais que j'avais peu de chance de les sortir, mais par contre, si t'as vraiment froid aux doigts, ça peut être très problématique de ne plus pouvoir se servir de ses doigts. Ça veut dire.
On peut prendre ses gels, exactement.
C'est par donc, là que ça passe l'hypothermie aussi, les extrémités, les pieds, les mains, ça arrive vite.
Exactement. Donc moi je joue pas avec ça. Il y a certaines choses avec lesquelles je joue pas. Et d'autres, je vais toujours respecter exactement le matériel de sécurité, mais il y a des choses. Par exemple, les doubles frontales, deux frontales avec deux batteries.
Trop lourd.
En fait ils disent pas frontale, ils disent lampe. Donc en fait sur mes deux j'en ai une qui c'est pas une vraie frontale qui éclaire très bien. Parce que je sais que normalement j'aurai que 2 ou 3 heures de nuit. Et de toute façon j'avais donné une frontale qui éclairait bien en plus à Valorcine en disant bah si jamais la course se passe pas comme prévu, tu me mettras les deux à Valorcine mais j'arriverai avant la nuit, mais sinon j'ai une lampe qui éclaire. Donc des petites choses comme ça. Mais sinon ouais pour le froid moi je pense que comme dit Sylvaine c'est hyper important. Et je voulais rajouter d'ailleurs que moi je l'ai remarqué, je m'attendais pas. Alors j'avais vu qu'il allait faire quelques gouttes à partir de 17h à Valorcine, donc moi c'est ce que j'avais prévu. Sauf qu'en fait ça n'a pas été que quelques gouttes. J'ai trouvé que c'était quand même. Il y a eu tout de suite beaucoup de vent, très froid. Ouais, le vent qui était très froid, la pluie qui était quand même intense. Et en fait j'avais quand même anticipé, mais j'avais pas anticipé que ce serait aussi fort, mais tu vois par exemple le Kawe, je l'avais quand même mis de façon assez accessible dans ma poche. Et je voyais des gens devant moi en fait qui soit couraient, sont restés toujours en t-shirt, bah, par exemple les filles. Les trois premières, il me semble qu'il n'y a que Anna Tarasova qui est arrivée, qui a mis un coupe-vent, mais les deux autres n'ont rien mis. Ça m'a quand même assez étonnée. Et en fait, il y avait un homme devant moi qui courait. Et en fait, je pense qu'il n'a pas dû anticiper ça. Et il a dû avoir froid un moment. Et en fait, il a enlevé son sac. Et je voyais qu'il cherchait dans son sac parce qu'il avait dû, comme on fait pour notre matériel de sécurité, enfin moi, le collant, le pantalon de pluie, la troisième couche, je sais que j'ai peu de chance de l'utiliser.
Tout donc est au
je,
fond.
Je le mets dans un sac isotherme et j'enlève l'air pour que ça prenne le moins de place possible. Et je pense que lui, il avait mis son imperméable ici. Et c'est vrai qu'il a perdu pas mal de temps à ouvrir son imperméable. Et c'est vrai qu'au même moment, moi, j'ai pu juste mettre ma main derrière et continuer à courir en mettant mon imperméable. Et ça, quand on est devant, quand on joue devant, c'est intéressant. Et je l'avais vu aussi sur d'autres courses, et notamment la CCC, quand je l'avais faite il y a 3 ans, on s'est pris une grosse averse dans le Grand Col Ferré, et j'avais été impressionnée parce que devant moi et derrière moi, personne, des élites, enfin personne ou peu, enfin en tout cas certains n'avaient pas sorti leur Kawe parce que je pense que ça, ils n'avaient pas prévu et ça leur prenait trop de temps. Et finalement, en fait, ça a pas manqué à la foulée. Il y a eu des hypothermies, il y a des gens qui ont abandonné. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que quand il faut pas attendre qu'on ait froid pour se couvrir, parce que quand on a froid c'est déjà trop tard. Il faut vraiment anticiper, te dire bon là on sent que la météo commence à même quand on voit qu'il commence à faire quelques gouttes, faut pas attendre que ça pleuve vraiment pour qu'on mette le kawé, parce qu'en fait on va être trempé sous notre kawé et ça va être pire. Donc c'est plein de petites choses comme ça dont il faut penser et en fait qui viennent comme d'ici avec l'habitude des courses.
Donc le maître mot c'est anticiper vraiment.
Ouais,
et ça Johan, c'est quand même quelque chose qu'on voit presque que dans le trail, quoi. Essayer de jouer comme ça avec le règlement.
Il n'y a que dans le trail où tu as une réglementation qui te demande de partir avec de lampes, des batteries, des bonnets, des gants et des polaires.
Oui, au marathon, mais la frontale, elle est plus
le possible. Marathon sur la frontale, normalement, tu n'en as pas besoin. Mais effectivement, il faut garder. Il faut être prudent, mais il faut surtout être intelligent. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils annoncent beau et que tu sais que tu vas courir 2 jours, ça sert pas à grand chose d'avoir deux frontales et de devoir partir avec et de les mettre prêts à prendre. C'est juste du bon sens et être bien organisé. Ouais.
Et pour les amateurs peut-être qui ne visent pas la gagne, qui visent simplement.
Ah mais là c'est déjà... comme l'a dit Sylvain, là c'est. Bah faut pas hésiter à s'arrêter. C'est-à-dire que là c'est sa propre santé. On sait qu'on va y passer du temps. Bah, se changer en haut d'un col parce qu'on est trempé et qu'on va attaquer une descente et il fait moins 5 degrés, et bah oui, prends le temps de mettre un textile chaud
Et même au départ il vaut mieux prendre trop que pas assez,
mais complètement,
avoir un 5 un peu plus lourd. Ok, et cette CCC, on est bien d'accord, je disais le plateau, la météo, finalement elle était vraiment pas simple, ne serait-ce que pour aller au bout. J'ai pas vu le taux d'abandon, mais c'est peut-être une des CCC les plus costauds des dernières années. Comment vous l'avez ressenti, vous, sur le terrain, Léa? Toi, est-ce que ça a été tout du long ou t'as eu des gros moments de down quand même?
Moi, un petit peu comme Sylvain, j'ai du mal avec le froid. Pareil, j'avais vu la météo et effectivement, on a eu beaucoup de chance jusqu'à 17h. Là où ça a été dur, c'était après la montée des steppes. Et il y a eu beaucoup de vent, froid. Et le fait que ce soit en plus humide, c'est vrai que j'ai mis la veste. Et par contre, comme c'était un peu compliqué, j'ai dû enlever mon sac parce que ça passait pas par-dessus mon sac. Donc c'est vrai que j'ai voulu prendre ce temps-là. Et après, je savais qu'il allait avoir beaucoup moins de vent parce que c'est une zone où il y a souvent du vent ici. Je me suis dit à Valorcine, ça va aller. Puis j'avais prévu de quoi me changer. Donc j'ai pris le temps aussi à Valorcine de prendre une veste sèche. Et effectivement, après, j'ai plus du tout eu froid dans la Flégère. Enfin, après, t'es globalement beaucoup dans la forêt. Et à la fin, il y a eu un peu de temps où t'es exposé au vent, mais c'était pas longtemps, quoi. Donc bien mieux que ce que j'imaginais. Et puis après, voilà, on s'était préparé, je pense, mentalement. Et comme il n'a pas plu non plus des trombes, pour moi, le parcours, je ne l'ai pas trouvé non plus trop boueux. Ça glissait un petit peu, mais voilà. Après, je pense que c'est les aléas de la montagne et ça donne du piment aussi, quoi.
Et toi, Blandine, qui nous racontait ta course, je le rappelle, du coup, quatrième de cette CCC 2025, il y a quelques personnes qui se demandaient pourquoi te voir sur cette CCC. Toi qui avais franchi le cap de l'UTMB, explique-nous finalement ce choix. Je crois qu'il y a une petite Jack des Fous dans quelques semaines, c'est ça?
Ouais, j'ai toujours rêvé de faire la Diagonale des Fous. Et cette année, c'était l'année pour des raisons personnelles. Et par contre, enchaîner UTMB et Diagonale des Fous...
Faut être fou.
Exactement, faut être folle. Pour ma part, déjà d'un point de vue performance, on peut pas être performant sur deux ultra trails à 6 semaines d'intervalle. Et aussi et surtout d'un point de vue santé, en fait, le corps il a pas le temps. Enfin moi quand je vois, je sais pas combien de temps vous remettez d'un ultra. Alors souvent les gens me demandent combien de temps ça va à la récup. Et je pense qu'on sous-estime la récupération. On parle souvent musculaire. Au bout d'une semaine, ça va, j'ai plus de courbatures, donc j'ai bien récupéré. Sauf qu'on n'imagine pas le désordre au niveau hormonal, hormonal surtout, que ça peut créer au niveau du corps, enfin hormonal, microbiote, sommeil, l'appétit, enfin tout ça est perturbé. Enfin c'est tout un continuum, hein, tout va ensemble.
Et on met moins de temps à se remettre d'un 100 km, beaucoup moins de temps, je veux dire.
Moi je pense que ça peut durer un mois et demi. Hein. Si j'avais fait du TMB, je commencerais tout juste enfin à me remettre, que j'enchaînerais direct sur une diag, et après ça peut être la porte ouverte aux blessures ou aux maladies. Donc j'ai pas voulu jouer le jeu de l'UTMB et diag, mais quand on pratique du trail à haut niveau, c'est quand même difficile de pas s'aligner sur une course UTMB. Donc je trouvais que c'était le bon compromis quand même de faire le format en dessous. Après voilà, on verra dans un mois et demi si je l'ai pas trop payé, parce qu'effectivement c'était dur. Alors pour répondre à ta question précédente, moi j'ai pas trouvé que les...
C'est aussi les aléas.
Elle a attrapé froid, voilà.
Exactement, j'allais dire, j'ai pas trouvé que les conditions météorologiques.
Mais t'es tombé malade.
Mais en fait oui, c'est vrai qu'à un moment il a fait froid et quand on hyperventile. On a une sorte d'asthme, d'effort, enfin je sais pas trop ce que c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je trouve qu'elle a été difficile. En tout cas, j'ai été à la bataille non-stop, du départ jusqu'à l'arrivée. Soit il y avait quelqu'un devant moi, soit il y avait des filles derrière moi. Et mentalement, ça a été super dur parce que je devais être vraiment dans le jeu et dans la combativité et la compétition pendant 11h53. Et j'espère, j'espère ne pas m'avoir trop cramé à ce niveau-là pour la Diagonale des Fous.
C'est pas tant le parcours ni même la météo, c'est finalement la physionomie de course.
Ah, et la densité, qui, hein. Il y a 18 t'as... secondes entre les deux premières. Hein.
Ouais.
C'est
ouais,
sur 11h42 d'effort, ouais. 18 secondes.
C'est rien,
si on se rend compte de.
On se croirait à une étape du Tour de France où ils font 4 heures et finalement ça se joue à des millièmes de secondes.
Bah, pour, ah, non, le, c'est ça, ouais. Pour le dire à nos auditeurs.
Serré.
Ouais, chez les filles, c'était vraiment très serré. Pour le dire à nos auditeurs, on était au niveau de l'arrivée et finalement, dans cette rue, bah, quand la première est passée, a fait le virage, la deuxième était juste en haut de la rue.
Ouais.
Donc 100 km, une rue d'écart. Voilà, quoi, ça
et la troisième à 2 minutes, hein, c'est pas non plus.
Et Blandine juste derrière, donc finalement.
Et Blandine encore derrière.
Un peu plus loin, j'ai lâché. Quand j'ai vu
quand t'as vu que le podium c'était mort.
Ouais, j'ai vu que tout le monde c'était mort. Et...
Mais mentalement, tu disais que ça t'avait coûté quand même beaucoup de jouer comme ça, entre le chat et la souris, passer la première, troisième place, deuxième, quatrième. C'est dur à encaisser ça aussi.
Ouais, mais je me suis mis dans la... En fait, j'ai fait exactement ce que je ne voulais pas faire. C'est-à-dire que j'étais attendue comme favorite. D'ailleurs, comme... Enfin, moi, j'étais quatrième. Enfin, il y a des cotations ITRA, je pense qu'on en parlait. Moi, j'étais quatrième cotation ITRA, donc il y avait quand même trois autres favorites devant moi. Mais je trouve que c'est parfois un petit peu difficile d'avoir ce poids. Et pourquoi ? Parce que sur la ligne de départ, on a le sentiment de devoir le prouver. Et je voulais me jurer de rester focus sur mes sensations et ne pas du tout m'occuper de ce qu'il y a autour de moi. Et bon, ça... J'ai pas réussi, je pense. Et donc, dès le départ, j'ai voulu un peu assumer ce rôle de favorite. Et quand j'ai vu que certaines filles étaient parties, j'ai voulu accrocher. Et en fait, là, c'était trop tard parce que j'étais direct. Enfin, j'étais déjà devant dans les avant-postes. Et je pouvais pas après me dire je suis allée trop vite, donc je recule, j'accepte de me faire doubler. Enfin, c'était trop difficile. Donc, en fait, dès le départ, j'étais dans la compétition. Et alors que je pense que quand on voit Sylvia Norxdar, ou même en fait les trois, que ce soit Martina, Sylvia ou Anna, elles ont commencé, en tout cas moi, à me doubler que à mi-course pour la première. Et en fait au 90e kilomètre sur 100 pour les deux autres. Donc en fait je pense que c'est ça aussi qui les a aidées, c'est qu'à mon avis elles en ont gardé déjà physiquement et surtout mentalement, à pas jouer des coudes pendant 10 heures d'effort. Et ça, effectivement, je pense que je vais apprendre. Enfin, j'ai déjà eu des courses comme ça et à chaque fois, je me dis qu'il ne faut pas que je réitère. Mais c'est difficile quand, surtout ici à Chamonix, les athlètes élites, on les met énormément en avant. On a la présentation des athlètes, on a les conférences de presse. Sur la ligne de départ, les 10 hommes et femmes, les top 10 hommes et femmes, on est dans un box un peu spécial.
À part, pour une présentation.
On fait la présentation, donc on est direct dans le jus. Alors que, on voulait pas prendre cette place, mais en fait, 5 minutes avant le départ, on nous rappelle qu'on doit assumer ce rôle. Et je voulais essayer de faire fi de tout ça.
Je vous demande d'applaudir le maire de Courmayeur et on applaudit toute la région du Val d'Ors. Merci.
Finalement, j'aurais bien vers toi. Non, c'est difficile au début quand on commence à avoir ce statut de favori ou de favorite comme Blandine l'avait sur cette course. De faire abstraction de tout ça et de faire sa propre course.
Ah, c'est compliqué, ouais, parce que t'as un côté compétiteur et il y a chez les champions, il y a ce qu'on appelle l'ego. Et l'ego, malgré tout, même si des fois tu te dis, vas-y, je pars tranquille, je me mets dixième, tu vois, et que tu vois les premiers partir, qu'on te dit, allez, ils sont pas, tu sais, les spectateurs, ils se rendent pas compte, mais tu te dis, ils sont pas loin devant, faut aller le chercher, faut s'accrocher. Parce qu'ils savent pas que c'est peut-être une partie de tactique, tu vois. Mais toi, ton ego te dit, t'es titillé entre les os. Et d'un seul coup, t'as le côté, ça switch, t'as le côté compétiteur qui revient, et puis tu t'accroches aux filles, tu vois. Et effectivement, faire des courses prudentes, faire des choses où tu dois vraiment faire attention, c'est pas évident quand t'es un champion de devoir accepter des fois de partir vraiment dedans et d'essayer de remonter progressivement ou de faire des courses en dedans. C'est très compliqué. Moi, je le vois sur marathon. Des fois, tu fais des semis à 3 semaines de l'objectif où on te dit tu cours à l'allure marathon. Tu peux être sûr que, mais ça, c'est pareil chez les amateurs, tu peux être sûr qu'il y en a 80% qui seront pas allés à l'allure marathon. Et qui seront beaucoup plus vite parce que t'as besoin de te rassurer, parce que t'as besoin de te prouver, parce que t'es compétiteur. Quand t'as un dossard sur le ventre, tu tu te donnes à 100%, donc c'est pas facile, ouais.
Ça d'ailleurs, Léa, par exemple, est-ce que ça se fait dans le trail de faire des courses en amont du gros objectif de la saison, en essayant de se dire je me mets à l'effort ressenti, c'est plus du ressenti sur le trail j'imagine, plutôt qu'une allure, et d'essayer de tenir cet effort là tout du long et sans aller plus vite. Est-ce que ça se fait ça dans le trail?
J'attends un petit peu que le bruit passe. Oui, ben franchement là je l'ai fait cette année et je pense que c'est intéressant, ben, comme tu dis, soit pour se mettre en confiance, soit pour s'habituer à tenir cette intensité. Donc là cette année j'ai fait du T4M, donc c'était un 44 et 3000. L'idée voilà, c'était de pouvoir tester tout pour après la CCC.
Que tu as gagné d'ailleurs.
Pardon ?
Que tu as gagné d'ailleurs.
Oui, que j'ai gagné.
Faut le dire.
Donc ça réconforte toujours et ça met en confiance. Et puis oui, je pense que c'est intéressant pour anticiper la stratégie, voir si ça fonctionne bien. Et puis après, c'est comme une grosse séance que tu ferais pas seule. Donc c'est. Je pense que c'est vraiment intéressant. Pour moi, j'aime bien le faire. Là, par exemple, c'était 2 mois avant.
D'accord. Ok, donc quand même un peu plus éloigné que ce
qu'on
peut faire
sur le route. Un mois et demi, ouais.
D'accord. Sylvain, toi aussi, c'était une course finalement avant la Diag, comme pour Blandine. Tu feras la Diagonale des Fous chez toi. C'est un rendez-vous que tu as pris l'habitude de faire.
Ouais.
Et pourquoi alors du coup avoir choisi ce 100 km ici à Chamonix avant de faire la Diag?
Bah, comme disait Blandine, je pense que l'enchaînement peut bien se faire si tu ne te mets pas trop dans le rouge sur la CCC. Il y a 6 semaines, c'est pas beaucoup, mais quand tu as l'habitude et que tu arrives à bien enchaîner, que ton corps connaît bien l'effort, à l'entraînement, on se met quand même des bonnes doses. Donc si tu le prends pas trop... après, Blandine l'a peut-être poussé un petit peu, mais elle a la faculté à bien récupérer, donc je ne suis pas très inquiète pour elle. Mais c'est au-delà de 100 km, ça fait quand même très proche. J'avais fait l'enchaînement TDS, Diag, c'était juste. UTMB, je l'aurais pas fait. C'est vraiment. Alors, il y en a qui l'ont fait, hein. Il y en a qui l'ont fait, il y en a pour qui ça s'est bien passé, mais c'est risqué. Et moi, j'ai pas envie de prendre le risque. Mais la CCC, au contraire, en fait, ça fait une belle dernière grosse course de préparation. Si tu la digères bien derrière, ça peut être très intéressant.
Tu l'as pris comme ça en tout cas, course de préparation.
Ah ouais, complètement,
et pas
ouais, complètement. Après, j'ai quand même fait ce que j'ai pu.
Bien sûr.
Je suis pas non plus allée en balade, mais j'ai été contente aussi de franchir la ligne en me disant ok, j'ai pas de douleur anormale, j'ai bien géré mon alimentation, les pieds c'est ok. Et j'ai pas pris les bâtons.
Eh oui, c'est ce que j'ai dit, t'as pas pu faire de la balade, t'avais pas les bâtons.
J'avais pas les bâtons, ouais, c'est sûr qu'il y avait pas grand monde sans les bâtons. Parfois j'ai regretté, j'avoue, hein. Quand je me faisais doubler par des nanas ou des mecs qui bâtonnaient. En plus, il y a un côté très stressant quand t'as pas les bâtons, le clac, clac, clac derrière toi, tu sais. Ah ouais, c'est vraiment. Et dans les premières montées, c'est presque gênant parce qu'on est vraiment à la queue leu les uns les autres et tu prends des bâtons dans la figure, c'est. Pour ça, c'est pas terrible, je trouve. Enfin, moi, ça m'agace un petit peu. Il y a des gens qui savent vraiment pas les utiliser. Je sais pas comment vous vivez la chose, mais ouais, je pense qu'il y a des choses à raconter sur les bâtons.
J'ai l'impression que c'est un enfer pour tout le monde. On veut juste rappeler que toi, tu vis à La Réunion et que sur les îles, globalement, on le disait.
Il y a pas de bâton.
Il y a pas de bâton. C'est pas autorisé.
Non. C'est en tout cas les courses, les compétitions, c'est sans bâton. Après, il y en a qui vont se balader dans les cirques.
Ça, c'est des randonneurs.
Qui soulagent un peu les genoux et tout avec les bâtons, mais. C'est pas trop la mentalité dans les îles, ouais.
C'est le randonneur du dimanche qui utilise les bâtons.
C'est ça. Ouais, c'est un pas petit quoi. Peu ça.
Vous aussi, Blandine et Léa, ça vous a gêné les bâtons Ça a pu vous gêner une concurrente devant les bâtons ou derrière L'utilisation des autres concurrentes ou des concurrents?
Moi, perso, je trouve que c'est compliqué de s'alimenter avec les bâtons. Des fois, avec le gel et tout, tu tombes sur les doigts. C'est peut-être pas la bonne technique. Après, j'ai pas été spécialement gênée devant moi. Au début, on était quand même dans la première montée, oui, on était un peu serré, mais après, ça s'est rapidement dilué. Donc, moi, pas trop.
Et toi, Blandine, devant, ça utilise plutôt bien?
Pas là sur la CCC, mais quand il m'arrive de faire des courses où je suis dans le peloton, effectivement, on voit qu'il y en a qui ne savent pas trop s'en servir, et notamment que ce soit la personne derrière moi qui. Alors, normalement, un planté de bâton, ça doit être à hauteur des pieds. Et quand je vois les gens qui plantent les bâtons loin devant, donc c'est-à-dire à côté, juste à côté de tes pieds, t'as peur qu'ils te plantent les bâtons sur les pieds. Et sinon, les gens qui descendent sans plier leurs bâtons, donc en fait qu'on les bâtons raides et en fait bah, t'es prête à te faire voilà, exactement, prêt à te faire transpercer le ventre, tu sais pas trop comment il va, donc comment il va les orienter. Donc effectivement, des fois c'est un peu gênant, mais quand on est ça c'est vraiment quand on est au cœur du peloton, donc soit en début de course, soit si vraiment on est dans le cœur du peloton. Mais après, bon, bah, quand on est espacé, les coureurs, c'est moins embêtant. Mais je pense sur un départ, ouais, d'une course telle qu'une course de
à la tête de la tronche, là, c'était infernal.
Ah ouais, mais ouais, ça,
quand t'es vraiment dans le peloton, ouais. Parce qu'on démarre direct dans un single, ouais. Et on se prend 1002 d'un
d'entrée
coup.
De jeu.
Et t'es là, les uns derrière les autres. Donc moi, je suis partie vraiment tranquille, donc ça bouchonnait. Donc de la première agacement, ça bouchonne et tout le monde s'énerve. Deuxième agacement, les bâtons, tu prends les bâtons. À la fin, c'est pas, ouais, faut rester tranquille, quoi. Faut vraiment patienter, faut pas s'énerver. Faut se dire c'est pas grave, c'est le début de course, mais c'est vrai qu'il y a de quoi s'énerver.
Ou alors il faut avoir fait de la boxe comme Léa et s'en servir. Non, faut garder l'esprit prêt. Non mais moi je vais dénoncer Yodu parce qu'on allait voir le départ de l'UTMB et on parlait des départs avec les bâtons. On s'est mis à quoi, deux bornes du départ, et il y en a qui utilisaient déjà les bâtons.
Yodu, ah ouais,
Yodu
oui.
Qui a dit il y en a un qui va planter un autre avec son bâton parce qu'ils avaient les bâtons vers le haut.
Ah ouais, mais sur le bitume ça
bah
part
ouais,
direct.
Sur le bitume.
Ah ouais ouais.
Je dénonce moi. Je m'en fiche.
Bah c'est lui, je sais pas ce qu'il... Il avait pas réussi à les ranger, je sais pas ce qu'il faisait avec ses bâtons au bout de deux bornes de l'UTMB sur la route avec ses bâtons.
Ah non, mais tu vois du tout avec les bâtons.
Il y a un vrai débat quand même dans le trail avec les bâtons. Ouais. Utiliser, pas utiliser, quand est-ce qu'il faut s'en servir.
Ah bah ça soulage quand même dans les descentes et dans les montées.
Ah moi je suis
persuadée
que ça aide. Oui.
Les descentes.
Moi, perso, dans les descentes.
Il vient dans les descentes, hein, je n'utilise jamais les bâtons dans les descentes.
Ah, il y a Ludo, il les utilise en descente.
Je pense que quand tu sais les utiliser, ça peut être bien.
Je pense qu'il va savoir les utiliser.
Donc là, on a trois traileuses et déjà, les trois sont pas d'accord. Imaginez à 2500 au départ.
Ah, ouais, c'est les montées. Maintenant, quand tu sais bien t'en servir, ça aide énormément. J'avoue que je suis pas trop descente. Moi, j'ai toujours peur que. Enfin, si tu mets un peu de vitesse. Là la CCC, bon, j'avoue que les descentes je les ai fait assez rapidement, peut-être un UTMB quand tu peux t'en servir, ou un ultra pour essayer un petit peu de te soulager, mais quand tu veux mettre un peu de vitesse, moi j'ai toujours peur que le bâton se coince dans un
se
rocher
ouais,
y a aussi un truc,
moi j'en vois des mecs le bâton qui
donc
s'accroche.
C'est pour ça qu'il y a un truc à faire aussi, c'est que si tu les utilises en descente, faut jamais mettre la dragonne
ou accrocher pour que le bâton il tombe, il parte sans ton...
ouais voilà, pour qu'il parte et pas que tu te fasses bah comme un peu je dis ça en ski, mais bon, en ski tu mets la dragonne, mais en tout cas en ski de rando, je crois que je mets la dragonne en montée et pas en descente.
Bon, en tout cas, ami trailer, si vous voulez faire
quatrième
de la CCC, écoutez Blandine, il faut mettre en montée les bâtons au niveau des pieds et surtout pas trop loin.
Devant.
Et en descente, on essaye de les ranger un maximum parce que ça sert pas à grand chose.
Oui, c'est vrai, les bâtons.
Tu les plies.
Ou alors, faut les plier.
Si t'as pas de quoi les ranger, à la limite, tu les gardes dans la main, mais tu les plies, quoi. Ça prend 2 secondes, quoi.
Il faut être souple avec les camelbacks dans le
dos. Ouais, c'est ça.
Il faut avoir la technique, quoi.
Bah, après, il y en a qui n'ont pas de camelback, hein. Il y en a, ils préfèrent l'avoir sur la ceinture. Il y en a même,
ils il y a un débat, il y a ceinture ou carquois, et moi je suis ceinture, tu vois.
Ouais.
C'est vrai que Blandine, tu les avais ceinture.
Ah, le carquois, j'ai jamais réussi. Alors déjà, j'ai les hypolipères là, j'ai toujours peur de me mixer. Et puis, pareil, c'est un coup de main à avoir. Moi, je suis pro ceinture.
De toute façon, dès qu'on parle matos, jamais personne.
Ah,
non, bah ouais, c'est pas évident, ouais.
Encore plus simple.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les bâtons, c'est un accessoire. On prend un débutant, fait du trail, il va dans un magasin, il dit je veux m'acheter l'équipement pour faire du trail. Les bateaux aujourd'hui sont vendus avec le sac, avec la montre, avec aujourd'hui moi ça l'était pas avant en 2010-2011, c'était pas systématique d'avoir des bâtons. Aujourd'hui je crois qu'un trailer débutant, on lui vend des bâtons comme on lui vend un sac, quoi.
En tout cas, il y en a que
ils ont quand même vachement
évolué. Oui, ils ont évolué aussi, ouais. Ouais, c'est vrai.
Honnêtement, maintenant, tu les sens pas. Il y a moyen que ça t'aide vraiment. Avant, c'est sûr que t'as quelque chose qui avec la grosse dragonne, qui sont lourds. C'était plus des contraintes. Et puis, je pense aussi, ça dépend énormément du terrain. C'est vrai, comme Sylvaine, déjà, à La Réunion, bon, on peut pas l'utiliser pendant les courses. Mais au-delà de ça, je pense que c'est pas un terrain qui s'y prête trop. Je viens du Mercantour, c'est hyper minéral, il y a énormément de pierriers. Pour le coup, je prendrais pas les bâtons du tout. Pourtant, il y a beaucoup de dénivelé, mais... Oui, voilà.
Et puis en fait, ça t'emmerde, quoi.
Ça plante pas. Cling, cling, cling.
Ouais, il faut dire les choses des fois. Hein. Il faut dire les choses. Mais j'ai une petite question aussi pour toi, Léa. On en discutait tout à l'heure de ton changement de statut, entre guillemets. Est-ce que, parce que je rappelle que tu avais passé élite professionnelle en début d'année, est-ce qu'une course comme ça sur la CCC, une 14e place, 3e française, peut t'ouvrir des portes pour renouveler tes contrats élite finalement?
Bah c'est pas à moi de le dire, mais on va dire là, donc je suis très contente d'être avec la Team Oka. J'aime beaucoup toute l'équipe. Enfin, moi, humainement, c'est très important de coller aussi avec les valeurs, avec l'énergie de chacun, au-delà du simple fait d'avoir du matériel. Et donc voilà, je sens une bonne alchimie, donc je serais ravie que ça continue comme ça. Après, je pense que voilà, la CCC, c'est une course qui est mondialement connue, donc moi, j'ai donné le meilleur, on verra ce qu'il advient pour la suite.
C'est une vraie vérité, Johan, du sport de haut niveau, c'est-à-dire arriver élite, c'est bien, le rester en faisant des performances et espérer renouveler ses contrats, trouver des sponsors, ça, c'est encore autre chose, c'est une vraie difficulté.
Un peu sombre de l'athlète de haut niveau, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que l'athlète de haut niveau, on a l'impression qu'il a la belle vie, que c'est juste s'entraîner, dormir et récolter les lauriers, mais c'est pas ça, c'est des heures de travail, et surtout dans les heures sombres, dans les blessures, quand les sponsors c'est un peu peuvent vous lâcher ou autre, c'est très compliqué, hein, et effectivement, que ce soit en trail sur la route ou sur la piste, on a tous un peu le même problème. Et quand tu es entre deux eaux, entre l'élite et le niveau, le très bon niveau, il faut faire des choix, il faut faire des sacrifices, ça demande de beaucoup d'investissement et il faut faire des bons choix par moment, il faut faire les bonnes courses au bon moment, il faut perfer sur les bonnes courses au bon moment et il faut espérer après trouver des partenaires en qui vous avez confiance et qui vous font confiance aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux qu'un partenaire qui, quand vous êtes blessé, ne vous met pas l'impression pour vous obliger à faire telle course, à faire tel résultat, mais vous fait confiance et vous dit bah écoute, prends le temps de te réparer, on te fait confiance, on est avec toi, soigne-toi et l'année prochaine t'es avec nous, tu vois. Et ça, pour un athlète, c'est ultra important, c'est bien dans son corps, bien dans sa tête. Et aujourd'hui, je pense que les marques en ont de plus en plus conscience de l'intérêt et de la du bien-être mental de ces athlètes. Moi je sais, je le vois, bah, on peut en parler avec Sylvain chez ASICS. On est dans une marque, dans une relation de pure confiance avec eux et du coup effectivement quand on court on est libéré, on a l'esprit libéré parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, même s'il y a contre-performance, la marque sera avec nous derrière. Ouais.
Oui, c'est une histoire qui dure longtemps, on disait avec ASICS, tes sponsors, ça permet de courir libéré aussi quand on a des sponsors qui durent
complètement,
dans le temps.
Ouais, complètement, moi ça va faire 12 ans et c'est vrai que ça a toujours été simple. Ça a toujours été simple. Les choses elles se font naturellement. Alors après, c'est plus tu avances dans la durée avec un partenariat, plus c'est simple parce que tu te connais mieux, tu te fais confiance. C'est presque un peu la deuxième famille. Mais c'est vrai, comme dit Johan, je pense qu'ASICS a vraiment cette volonté de mettre la santé avant tout. Et tu vois, nous on avait une coureuse qui devait faire la TDS. La veille, elle était pas bien du tout. Elle a vu le médecin. Et voilà, ils ont pris la décision ensemble de ne pas lui faire prendre le départ pour sa santé.
Trop risqué.
Voilà. Parce que le but, c'était pas de l'envoyer, d'empirer les choses. Ouais, y a plein de cas, en fait. Benoît Girondel, à l'époque où il était chez ASICS, sur une diagonale des fous, il était en tête. Il pissait du sang. Pour la faire cash.
Vaut mieux arrêter, là.
Et tout allait bien. Il était en forme, hein. Mais c'est pas des signes très. Voilà.
Très bon, ouais.
Oui, et je donc. Sais pas si tout allait bien en pissant du sang.
Ouais,
du
mais coup. Lui, il avait le sentiment que tout allait bien, en fait.
Oui,
lui,
oui.
Tout seul, il aurait pas arrêté. Mm. Mais à ce moment-là, il y avait un petit point, ASICS, le médecin d'ASICS, tout ça, on a décidé d'arrêter. Donc, c'est pas la performance à tout prix, et on le ressent beaucoup dans la mentalité de notre partenaire, et c'est hyper important, ouais.
Blandine, toi, Johan disait un athlète bien dans son corps, bien dans sa tête, c'est. Bah c'est une vérité finalement, et les sponsors, ça permet d'être bien dans sa tête quand ça dure sur le long terme.
Bah effectivement, alors moi je suis chez Kiprun, hein, la marque de course à pied de Decathlon. Et ouais, bien dans son corps, bien dans sa tête, si on veut parler juste là par exemple de la CCC, bah aussi notre sponsor principal, ça va être celui qui fera en sorte de te mettre dans les meilleures conditions avant une course. Donc te proposer un hébergement, de te proposer aussi d'être là pendant la course, de te faire les ravitaux. Moi en l'occurrence j'ai Mathieu mon conjoint et Lilian mon coach qui font ça très bien, mais en tout cas Thierry Breuil le team manager de chez Keep Run et puis tous les gens qui travaillent chez Keep Run qui étaient là à l'événement sont tous venus sur des points un peu stratégiques de la course pour m'encourager, me motiver, et effectivement c'est hyper important d'être dans de bonnes conditions avant une compétition par exemple. Et là je vous parle parce qu'on parle de la CCC, mais ça c'est tout au long de l'année, voilà, de te mettre dans les meilleurs moyens. C'est pour tout.
Les arrivées s'enchaînent encore.
Ne devrait pas arriver dans très longtemps, donc
c'est Aurélien du Nord-Palaz, ouais.
Aurélien qui vient de passer.
Arrive. C'est Aurélien, il est 20e.
20e.
20e Aurélien, ouais.
La première fille va pas tarder.
Comment ?
La première fille va pas tarder.
Oui, ben voilà.
Donc, il sort 2 minutes là.
C'est la prochaine.
On va l'attendre évidemment. Non, tu disais être bien dans son corps, bien dans sa tête toute l'année aussi, c'est important, pas que pour un événement.
Ah, bah oui, bien entendu. Mais c'est exactement ce que disait Sissi. Après, effectivement, le sponsor a pour objectif de pas te mettre la pression. C'est pareil chez Keep Run, mais en tout cas un sponsor qui n'aurait pas cette philosophie n'aurait rien compris au sport.
C'est ça.
Parce que je connais aucun athlète qui n'a jamais été blessé, enfin sauf s'il a fait qu'un an de haut niveau. Mais en fait, à partir d'un moment, enfin moi c'est vrai que j'ai commencé à découvrir ce qu'était une blessure au bout de 3-4 ans. Et avant la CCC, on me demandait dans quel état d'esprit j'étais. Moi, là, vraiment, la réponse était juste d'être super content, d'être sur une ligne de départ et en pleine santé, parce que je mesure maintenant c'est quoi la chance qu'on a de pouvoir s'entraîner pour performer à haut niveau sans se blesser. C'est quand même quelque chose d'assez, dont on peut être fier. Et puis ensuite être bien dans son corps et bien dans sa tête, après c'est pas forcément que le sponsor, hein, c'est l'athlète qui doit faire en sorte dans sa vie d'être équilibré, de trouver toutes les ressources personnelles, familiales, professionnelles pour être équilibré.
Johan, tu voulais rebondir.
Ouais, la vraie difficulté pour les sponsors aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'athlète soit bien dans sa tête, bien dans son corps et prêt à participer à la course, mais aussi à le mettre en avant. On le voit, c'est quand même un événement de dingue, l'UTMB. Moi, je suis effaré par le nombre de marques qui est présent, des community runs qui sont organisées, des événements qui sont mis en place, des présences médiatiques qui sont demandées aux athlètes, hein, des podcasts, on n'est pas les seuls, hein. Il y en a peut-être une dizaine d'enregistrés à l'heure actuelle. Et effectivement, c'est essayer de trouver le bon compromis pour faire en sorte que ton athlète, tu puisses l'exposer suffisamment sur les réseaux sociaux ou autres pour qu'il soit mis en avant et que ta marque soit mise en avant, mais d'un autre côté, qu'il continue à être performé pour qu'il soit bien dans sa tête et pas l'envoyer la veille de la course à devoir faire un community run avec 200 personnes à qui il va devoir parler, après partager un apéro dînatoire avec je ne sais qui. Du coup, c'est un vrai équilibre et les marques, elles ont tout intérêt à vraiment bien penser les choses et pas aller dans des trucs un peu trop...
Passer par pied,
ouais.
Il y a une vraie stratégie aussi de choisir les courses, finalement. Ne pas forcément être imposé par ça. Chamonix, c'est une évidence pour tout le monde, j'imagine. Blandine, Sylvaine, ça faisait un petit moment que tu n'avais pas couru à Chamonix, il me semble. 2 ans, peut-être
J'ai fait la TDS en 2023.
Ok, donc ça faisait 2 ans, c'est ça.
2021. J'ai fait 2 fois la TDS, 2 fois la CCC, 1 fois l'UTMB. Mais c'est un événement que j'aime bien, mais c'est aussi bien qu'on soit là pour les partenaires. Nous, c'est un rassemblement pour ASICS. On est une cinquantaine d'athlètes. C'est aussi un moment, une semaine où on est comme en stage, quoi. On a l'équipe développement produit du Japon qui vient.
C'est mondial.
C'est mondial.
L'UTMB, c'est le championnat du monde des trailers. Hein.
C'est ça, ouais.
C'est toujours un rendez-vous que tu apprécies, venir à Chamonix, rencontrer ce public qui est... C'est juste énorme, quoi, l'arrivée de l'UTMB, mais pas que, l'arrivée de toutes les courses où chaque athlète est applaudi, qu'il soit premier, qu'il soit 2500e. Ça, c'est quand même fou et ça représente le trail, l'univers du trail à Chamonix, finalement. C'est le temple du trail.
Parfois, c'est presque trop. Ça en est un peu parfois étouffant quand t'aimes bien aussi les petites courses intimistes où là, tout est réglementé, l'arrivée, le départ, les zones d'assistance.
Ouais, tu peux pas prendre de ravito n'importe où.
C'est une personne par coureur. Et quand la famille vient, ils peuvent même pas tous rentrer dans la zone d'assistance. Donc, il y a quand même voilà, des effets négatifs à cet engouement. Après, oui, globalement, c'est que du positif, mais voilà, il y a des gens qui vont voir toutes les petites contraintes autour. Et bah, c'est vrai que voilà, il y a un côté très étouffant de tout ce monde. Chamonix, une petite ville, pendant une semaine.
Ah ouais, c'est le Tour de France.
On se marche un peu dessus, quoi.
Je me tourne vers toi, Léa, qui, bah, on va peut-être assister à l'arrivée des premières féminines d'ici quelques instants de l'UTMB.
Deux minutes
à tenir. Et bah, est-ce que
je monte le chrono.
C'est plutôt quelque chose qui t'attire, ce format de course. Pour l'instant, toi, t'es plus autour des courses qui font entre 40 et 100 km sur tes objectifs. Est-ce que aller vers le 100 miles, ça pourrait t'attirer quand tu vois cette ambiance ici à Chamonix?
Pour un petit peu vous expliquer mon parcours, au début j'ai plus commencé sur des formats plus courts, donc 30-40 km. La première course que j'ai fait à Chamonix, c'était la MCC. Et du coup j'avais fait deuxième. C'était
carrément Blandine qui a quitté le plateau pour aller voir l'arrivée, pardon.
La première féminine.
Je sais pas, on va voir ça peut-être dans un instant. Et oui, c'est la première féminine qui est là. La néo-zélandaise, alors là il faut...
Ruth Croft,
voilà, la néo-zélandaise. Bon, c'est pas le nom le plus facile à dire, mais quelle ambiance, encore une fois. Hein, il y a du...
C'est dingue, ouais.
Toi qui avais jamais vécu ça, c'est...
Non, bah ouais, moi je suis effaré par l'ambiance. Mais là, enfin, c'est pareil, parce que c'est la première féminine, mais c'est pareil, tu reviens à 20h, ça sera le 70e homme.
Ben oui.
Et ben, ça sera la même ambiance, on va l'encourager comme si c'était un champion. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Ouais.
Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Chamonix et l'UTMB, on a un vrai couloir de monde, finalement, sur plus de deux bornes pour rallier l'arrivée. C'est assez fou ce bain de foule à chaque fois, non, on s'y habitue jamais. Blandine, hier, je disais tout à l'heure, t'étais très ému par
kiff.
Ça. Hein.
Mais en fait, rien que de voir Ruth, ça me donne des émotions, c'est fou. Il y a quelque chose vraiment de particulier et je me dis c'est magnifique. En plus, je la connais un petit peu et je sais que c'est un travail de plusieurs années. Et moi, j'avais mis une pièce sur elle pour la victoire et elle le concrétise. Ça fait 3 ans qu'elle s'entraîne pour et là je suis en train d'imaginer ce qu'elle ressent et je trouve ça génial et ça donne envie de se sacrifier des années pour vivre juste ces quelques minutes, enfin c'est magnifique, quoi.
Blandine, les larmes aux yeux finalement pour sa copine Ruth Croft, la néo-zélandaise qui vient de remporter cette UTMB
et normalement Camille Bruya c'est deuxième hein, pour l'instant.
Normalement on a une Française sur le podium devant Courtney de Walter, ça c'est une surprise aussi. On verra ça dans les prochains podcasts RMC Running. En tout cas, on a bien fait le tour de cette CCC pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Vous, les fidèles d'RMC Running qui avez suivi cette délocalisation à Chamonix. Merci Sylvaine, merci Blandine, merci Léa pour ce débrief et pour cette course qui nous a fait vibrer.
Bravo,
vraiment course incroyable hier. Podcast délocalisé, je l'ai dit, conseil de fin quelque peu changé donc. Alors sur route comme sur sentier, levez les pieds, ça aide à ne pas tomber. Salut à tous.
RMC Running.